Bonsoir Ibrahim Malouf.
Bonsoir.
Vous sortez deux albums en même temps, Red and Black Light et Kalsum. Pourquoi deux disques? Vous sortez des disques quasiment tous les ans, vous tournez énormément. Comment vous réussissez à sortir deux disques en même temps sur un projet et on va dire philosophique qui est le même sur les deux, un hommage rendu aux femmes?
Oui, alors l'aspect philosophique, c'est peut-être faut creuser vraiment, parce que c'est avant tout un album dédié aux femmes, avec évidemment toujours une histoire derrière ça, une vraie logique, etc. Après, pour la quantité, je dois avouer que je sais pas trop à quoi vous répondre, parce que j'ai toujours beaucoup travaillé, composé énormément, je compose beaucoup. J'ai la chance de pouvoir sortir mes albums, de pouvoir avoir un public, faire des concerts, donc du coup je le fais. Je me moque pas des timings et tout, parce que je me demande même si c'est pas un peu trop, mais en tout cas je me fais plaisir vraiment, et j'ai l'impression que pour l'instant le public ne m'a pas encore fait sentir que j'exagérais, quoi. Mais si par exemple je sens que les gens me disent bon, là vos albums ils sont un peu moins bons qu'avant, vous devriez prendre le temps de les bosser, à ce moment là peut-être que je me dirais bon, je vais peut-être me calmer un peu.
Mais c'est des retours que vous pouvez avoir du public, ça, ou c'est des
retours le public, parce que vous... est direct, hein. Ils me disent les trucs
parce que vous les rencontrez à l'issue des concerts, hein. Oui. Vous prenez toujours du temps, sur au moins une heure et demie pour signer les disques.
Oui, vraiment.
Et là, vous êtes très attentif à ce qu'on peut vous dire sur la musique.
Je suis attentif à ce que les gens disent, mais surtout, les gens ne se gênent pas pour me dire les choses, quoi.
Oui.
Ah ouais, les concerts, par exemple, où on est un peu moins bon, ou si je suis un peu malade ou fatigué, les gens, ils viennent et disent « Ah, c'était pas super ce soir, hein. Moi, j'ai préféré le concert de Rouen, le concert de machin. »
Et ça, vous le prenez comment ?
Bah, souvent, ils ont raison.
Ah ouais, ouais.
Souvent, ils ont raison, faut accepter... Faut être humble, hein. Tant que ça reste une critique de quelqu'un qui vous aime, c'est comme nos parents par exemple, ou nos frères et sœurs, on est beaucoup plus disposé a priori à... C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça nous vexe un peu plus quand c'est les parents ou les familles, parce qu'on sait que c'est peut-être un peu vrai. Donc voilà, mais vraiment je le vis bien, hein. mais c'est vrai que ça arrive souvent quand même, hein. Vraiment que les gens... Après, heureusement, il y a tous ceux qui disent que c'était super.
Et là, quel est l'accueil alors de ces deux disques?
Alors, c'est peut-être un peu tôt pour.
Ils sont sortis le 25 septembre.
Ils sont sortis le 25 septembre, voilà. Donc, c'est peut-être un peu tôt pour l'instant pour dire les gens aiment, les gens n'aiment pas. Mais en tout cas, ça a l'air d'avoir un beau début de vie, comme on dit. Donc,
Et vous êtes l'un des rares artistes, rares musiciens de jazz, au sens assez large, à drainer autour du monde, à faire autant de dates et avec un succès assez incroyable. Comment vous arrivez à analyser ça, à comprendre ça, comment le jazz, comment la musique instrumentale peut faire venir autant de monde dans des salles ou dans des festivals?
Est-ce que moi je me pose la question, et il y a pourquoi. Donc, à la première question, je me pose souvent la question, j'ai pas de réponse, mais je me pose souvent la question de me dire j'ai de la chance, quoi. Pourquoi moi ça,
j'ai pas de la chance. Ça suffit pas, la chance.
Non, mais en tout cas, je sais que je me pose la question dans ces termes-là. En tout cas,
d'accord.
Je dis je dois avoir une bonne étoile, et c'est chouette. Il y a beaucoup, beaucoup d'instrumentistes que je connais qui mériteraient d'être vachement mis en avant aussi, d'avoir beaucoup de succès. Et je me dis que du coup, ça met la pression, mais ça m'oblige à rester vraiment au taquet dans la qualité de mon travail et de jamais me dire ça y est, je me dis bon, j'ai quand même une chance incroyable. C'est vrai que ça n'arrive pas beaucoup aux instrumentistes. L'année dernière, quand on a eu les victoires de la musique, c'est la première fois dans toute l'existence des victoires qu'un projet instrumental est récompensé.
Oui.
Un projet uniquement instrumental. C'est des projets instrumentaux où il y a toujours des chanteurs qui viennent faire des featuring, et c'est grâce à ça qu'ils passent en radio. Mais un album comme le mien, où il n'y a pas du tout de featuring, de voix, et donc aucun passage radio, à part les radios jazz, c'est juste jamais arrivé, quoi. Donc on sent qu'on est en train de creuser un sillon. Moi, je dis on parce qu'on est nombreux, hein, je ne suis pas tout seul à faire tout ça. Il y a les musiciens, il y a les équipes, le manager, etc., les tourneurs qui font tous des attachés de presse, qui font tous un travail super. Et tous, on est en train de creuser un sillon. On est en train de développer un truc qui, faut l'avouer, hein, mais je le dis vraiment à regret aussi, mais n'existait pas avant.
Mais vous avez aussi une façon de présenter cette musique, d'en parler, de la communiquer dans votre façon de parler, comme vous le faites maintenant, qui est simple, chaleureuse. Ça, ça aide aussi peut-être à faire connaître mieux cette musique qui a une certaine image, parfois un peu élitiste. Enfin, nous, on y est confrontés dans une radio, mais on vous a vu à la télé, vous avez composé pour des musiques de films, pour plein de choses. Donc, c'est une façon aussi d'ouvrir les fenêtres.
Moi, j'ai vraiment mon sentiment profond par rapport à ce que vous dites, parce qu'en fait, quand vous dites ça, je sais que vous le pensez vraiment et sincèrement et tout, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui récupèrent ce que vous êtes en train de dire là et qui disent oui, en fait, en gros, il vend bien son truc, quoi. C'est pour ça que ça marche. Et je sais que vous dites pas ça vous, mais j'entends moi souvent des gens qui me disent ça ou je le lis dans des magazines de jazz, par exemple, des choses comme ça, qui disent ouais, c'est juste un bon musicien, ça va, ni trop, ni plus, ni moins que les autres, mais par contre, qui sait parler et qui sait vendre son truc. Et je me méfie beaucoup de ce discours-là. Et du coup, je vais vous dire, en fait, moi, je pense surtout que une certaine partie, en tout cas, heureusement pas tout le monde, mais une certaine partie des décideurs dans le jazz, comme dans la musique classique d'ailleurs, par amour pour le jazz, ont voulu, je pense, dans l'histoire du jazz, l'élever au-dessus du reste, parce qu'ils adorent cet art, ils en avaient marre qu'on le piétine, et ont voulu, par amour, essayer d'en faire quelque chose de meilleur que le reste, et de dire, bah voilà, nous les jazzmen, ou nous les musiciens classiques, nous sommes une élite, respectez-nous, voilà, les jazzmen, parfois, souvent, j'entends parler certains, heureusement pas tous, mais certains, qui disent, mais non, mais nous, nous sommes comme les musiciens classiques, nous sommes, voilà, une c'est presque, moi j'entends presque comme une caste en fait.
Oui, c'est ça, mais ça veut dire aussi on reste entre nous.
Des gens.
Ça veut dire on reste entre nous aussi.
On reste entre nous.
Pour protéger cette musique, reste entre nous.
C'est pour ça que je suis un grand artiste, parce que je suis un artiste maudit et parce que personne comprend ce que je dis. Et moi, j'ai vécu ça avec mon père. Mon père est un artiste qui a vécu toute sa vie comme ça. Et j'ai grandi en voyant mon père, en admirant son travail, en étant dingue de ce qu'il faisait et en le voyant fonctionner comme ça. Et se tromper, et je me rappelle, moi je m'en souviens comme c'était hier, j'avais 10, 11, 12 ou 13 ans, et je l'entendais faire des interviews par exemple par téléphone, ou à la maison, ou parler avec des gens, et je me disais, mais pourquoi il dit ça? Il se trompe, c'est pas comme ça qu'il va faire aimer sa musique aux gens, c'est pas en disant aux gens que ce qu'il fait c'est quelque chose que les gens ne peuvent pas comprendre, au contraire en fait en réalité, c'est le contraire, si on veut, bah d'ailleurs s'il y a des gens qui nous entendent maintenant, et qui se demandent comment faire pour... vendre leur musique, même si elle est un peu complexe ou un peu compliquée, il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'expliquer aux gens exactement ce dont on parle, de pas avoir peur en fait, parce que les gens sont pas idiots, les gens sont pas cons.
Non.
Et quand par exemple dans les radios généralistes, les gens vous disent non mais attends, ta musique instrumentale, parce que moi, nous on se fait refuser de quasiment toutes les radios généralistes pour les playlists. Hein.
Oui.
Heureusement qu'il y a les radios jazz qui nous soutiennent, parce que sinon, et remercie, hein, parce que voilà, sinon. On passerait jamais en radio. Et leur discours, c'est de dire mais attends, mais les gens ils comprendront jamais. Ils comprendront pas ta musique. Il faut des paroles, il faut des trucs un peu simples, tu vois. Et moi je me bats contre ce truc là Et c'était vraiment une vraie victoire pour nous, contrairement à ces chanteurs qui à chaque fois gagnent une victoire puis ensuite ils disent que c'est de la merde les victoires de la musique. Pour nous, c'était une, pardon de l'expression, mais c'était une putain de victoire.
Ouais.
Parce que on a gagné un truc vraiment. Et quand je voyais pendant la cérémonie des victoires ma mère qui m'envoyait les tweets qui sont envoyés et tout, on était le deuxième mot, mon nom était le deuxième mot le plus tweeté en France pendant quasiment toute la cérémonie. Alors dire à ces radios, eh ben, regardez que les gens ils s'en foutent pas, regardez que les gens ils comprennent, ils ont aimé ce qu'on a fait, arrêtez de les prendre pour des cons. En gros c'est ça.
Oui, et puis il y a maintenant dans votre public des gens qui n'écoutent jamais de jazz. Moi quand je cite votre nom, quand je dis tiens je vais rencontrer Ibrahim Malouf, on me dit oh, génial, t'écoutes du jazz? Non, jamais, mais ça
Mais
bien.
Par contre ils vont dans les rayons de jazz quand ils achètent mon disque et ils découvrent, ils regardent ce qu'il y a autour d'eux.
Et ça
aide aussi les gens à découvrir d'autres trucs.
Mais vous parliez de votre père, c'est lui qui vous a fait découvrir Oum Kalsoum, à qui vous rendez hommage. Oui. C'était un choc aussi, ça, petit.
Ah, c'était
vous a
choc,
forcé
c'était,
à l'écouter.
C'est ma langue maternelle musicale. Au contraire, j'ai grandi tous les soirs. Mon père, il arrivait, il prenait la cassette. Moi, j'étais encore dans mon lit. Il plaçait la cassette dans le radiocassette. Il appuyait sur play. Il me disait bonne nuit.
Ah oui.
Et c'était du Oum Kalsoum. De temps en temps, il mettait un peu d'autres petites choses. Abdel Wahab, Farid Atrache, c'est toujours de la musique arabe, souvent de la musique égyptienne.
Et c'était la berceuse.
Et c'était sur ça que je m'endormais. Moi, je m'endormais pas sur les comptines pour enfants ou quoi. Je m'endormais toujours sur Oum Kalsoum. C'est un grand amoureux d'Oum Kalsoum et des musiques, des chants arabes et tout ça. Donc, il en mettait tout le temps à la maison. Et donc, pour dormir, pour nous, c'était ça, quoi. Ah oui.
Et donc ce disque, c'est à la fois l'hommage à cette chanteuse, à cette voix, mais aussi un hommage à votre père qui vous a fait découvrir cette musique.
Indirectement, oui, bien sûr.
Directement. Oui.
À l'histoire, en tout cas, de mon père aussi, plus qu'à mon père, mais plus à, plutôt à son histoire, à son éducation musicale, mmh. lui, à ce qui a fait qu'il est devenu un musicien, et donc indirectement, ce qui fait que moi aussi, je vis grâce à la musique et que je vis que par la musique.
Oui.
Donc c'est un hommage à peut-être à mon histoire et à l'histoire familiale. Mmh. C'est sûr que mon père a un rôle incroyable dans cet hommage.
Donc vous mettez en avant l'hommage aux femmes sur ces deux disques, mais aussi l'hommage au père et au père musicien.
Ouais, mais c'est toujours pareil. Après, si on développe, ça va toujours plus loin et plus loin. Mmh. Et voilà, c'est sûr.
Mais quand vous avez composé ces deux disques, vous aviez toutes ces idées en tête. Est-ce que vous arrivez en studio en disant, tiens, je vais écrire deux disques, je vais rendre hommage à Oum Kalthoum, hommage à mon père, hommage aux femmes.
Non, je vous coupe tout de suite. Ça se passe, en tout cas pour moi, ça se passe jamais comme ça.
Ouais, c'est ça.
Non,
ouais.
L'hommage à Oum Kalthoum, ça fait au moins 12 ans. J'ai essayé de calculer la dernière fois, mais je me souviens qu'en 2003, déjà. Parce que c'était quelques mois ou à peine quelques années, mais quelques mois après le 11 septembre, je me souviens que je m'étais déjà dit à cette époque-là, mais c'est pas ça, la culture arabe, c'est loin d'être ce qu'on essaie de nous dire, et on vaut mieux que ça. Déjà, ça a commencé un peu comme ça en me disant, il faut que je me rapproche de ma culture arabe, mais dans le bon sens, du bon côté. Qu'est-ce qu'il y a culturellement? Et tout de suite, moi, quand je me plonge dans ma culture, c'est Oum Kalthoum qui prend tout de suite la part belle, si j'ai envie de dire, parce que elle a bercé toute mon enfance, donc je me suis dit, mais voilà, un jour, il faudra vraiment que je réussisse à intégrer dans ce jazz que j'adore et que je suis en train d'essayer de faire, en tout cas, autant que je peux, et un jour, intégrer ma culture d'origine, mais sans que ce soit du patchwork ou une superposition musicale. C'est-à-dire, je ne vais pas prendre le piano et faire jouer du kanoun dessus ou faire une mélodie au ney. Et puis, voilà. Je ne voulais vraiment pas que ce soit un truc de superposition. Je voulais que ce soit un vrai mélange génétique.
Expliquez-nous comment ça se traduit.
Et ça a mis du temps, quoi. Ça a mis du temps. Ouais. J'ai mis plus de 10 ans, en fait, à le faire, cet album Kalthoum. Mm. Et juste pour finir par rapport à la question, puis après, et Red and Black Light, c'est pareil, c'est peut-être pas aussi vieux que ça, par contre, c'est 3-4 ans où j'ai commencé à mûrir ces mélodies en tournant sur d'autres albums, en faisant d'autres albums. Et il a fallu que j'attende la bonne équipe, le bon moment pour que ça mûrisse. Voilà. Mm.
D'accord.
Et vous m'avez dit
comment ça se traduit, enfin l'hommage à Oum Kalthoum, comment
se traduit?
Oui, comment vous mixez sa musique, son travail à elle et le vôtre aujourd'hui, comment les deux peuvent se rejoindre?
Je crois, en tout cas, quand il s'agit de musique, je crois beaucoup en la simplicité des choses. Et de ne pas chercher à en mettre plein la vue, par exemple, de ne pas chercher l'aspect performance, de l'aspect technique du propos, d'essayer de juste viser le plus juste possible là où la justesse est la plus l'acuité, quoi, de la justesse, quoi, qui est aucune déformation du propos. Et donc Surtout s'il est vrai et s'il a fait ses preuves, quoi. Une chanson d'Oum Kalthoum, moi je me rappelle de ces chansons par cœur. Les mélodies sont d'une force incroyable. Et ce qui est pur dans les chansons d'Oum Kalthoum, c'est que il y a sa voix, évidemment. Hein, sa voix, on pourra en parler des heures. Mais dans les chansons, c'est une force de la mélodie qui est implacable, avec plein de petits retournements de situation. Que pour comprendre, il faut être assez initié. Donc c'est pour ça que ça crée une extase incroyable dans le public, parce qu'eux connaissent cette culture-là, ce langage-là. Et j'avais envie de reprendre ces deux mêmes éléments-là, c'est-à-dire l'aspect mélodique, lyrique, de ne pas le perdre. Et donc j'ai repris exactement la même chanson dans le même ordre. C'est une chanson qui dure à peu près une heure, une suite comme une symphonie. Donc de la reprendre exactement la même, de ne rien changer, ou presque rien, et de l'adapter à la trompette, hein, évidemment, parce que comme je chante pas, je joue de la trompette, donc faut l'adapter un peu. Mais de reprendre exactement la même chanson dans le même ordre, avec les mêmes mélodies, chantées quasiment de la même manière. Et ensuite, à partir de cette matière première là, et ben de travailler avec un quintet qui sait ce qu'il fait, c'est-à-dire des musiciens qui ont une vraie personnalité, qui connaissent la culture du jazz très bien et l'histoire du jazz très bien, de leur faire confiance et de leur dire, bah voilà les gars, moi j'ai cette mélodie là. Voici les harmonies, faites ce que vous voulez avec ça. mais exploitez ça comme si c'était un standard de jazz, enfin une chanson de jazz, voilà. Et c'est ce qu'on a fait. Donc en fait, on a pris les deux éléments les plus simples de notre rencontre, c'est-à-dire la voix d'Oum Kalthoum et cet aspect lyrique et leur manière de jouer. Et on les a mis ensemble de manière très naturelle. On n'a rien forcé.
Et vous les avez autorisés eux à improviser ?
Ah oui, bien sûr. Alors c'est très écrit par contre aussi. Hein. Ouais. Comme c'est une suite, c'est un peu comme une symphonie, c'est quand même très très écrit. Mais il y a plein de petites fenêtres au milieu où ils sont complètement libres. Certaines on entend, certaines qu'on entend vraiment, parce que c'est des gros impros et ils se libèrent complètement. Et d'autres où c'est très subtil, mais c'est eux qui ont coloré ça à leur façon.
D'accord. Voilà. Et vous en tenez à cette mélodie et vous pouvez en sortir un peu ?
Oui, j'improvise beaucoup évidemment. Ouais, mais je leur donne quand même beaucoup de place. Mais malgré tout, toute proportion gardée. Parce que la mélodie est tellement forte et l'écriture est tellement, tellement riche que si on improvisait toutes les deux secondes, si j'avais fait des moments ouverts dans cette écriture-là... En fait, d'ailleurs, il faut que je précise quand même, on a fait ça main dans la main avec Frank Wust. Toute la transcription, on l'a faite à deux avec le pianiste qui m'accompagne depuis pas mal d'années maintenant. Et on a fait vraiment ça ensemble et on a essayé de jauger à deux la quantité d'impro qu'il fallait, parce que c'est pas juste allez on sort un thème et bam on improvise tous pendant une demi-heure. C'est pas ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fin que ça en fait. C'est beaucoup plus écrit, beaucoup plus délicat, et tout est dans la délicatesse vraiment. Et vous verrez ce soir en écoutant, mais vraiment tout est dans l'aspect tout est fait de manière à ce que la nuance soit hyper délicate et que ce soit pas des variations de performance, etc. Voilà.
Cette musique, vous nous le disiez tout à l'heure, elle a vraiment, quand on lit Bercer votre enfance, c'était ça. Votre papa vous faisait écouter ses cassettes pour vous endormir, mais ça aurait pu faire de vous un chanteur.
Mais peut-être, je sais pas. Après, je chante tout le temps, moi, quand je suis tout seul, depuis que je suis tout petit.
Vous êtes
tout seul, ouais, voilà. Mais. Non, mais j'ai la chance d'avoir un instrument incroyable. Quand j'étais plus jeune, je me rendais pas trop compte de la chance que j'avais de jouer de cet instrument. Parce que non seulement c'est un instrument magnifique, la trompette, mais en plus l'adaptation qu'en a fait mon père en ajoutant le quatrième piston qui permet de jouer les makams arabes, c'est juste l'instrument le plus parfait pour moi. C'est un instrument métis, comme je le suis, qui est vraiment mélangé de cultures occidentales et arabes. C'est un instrument qui est complètement polyglotte. On peut passer de la salsa à Bach, au blues, au jazz, en allant vers la musique classique et maintenant vers la musique arabe. Donc, à un moment donné, des instruments qui permettent ça et qui ont en même temps, en plus de ça, une puissance et une douceur à la fois qui sont incomparables. J'ai une trompette, ça peut exploser et à la fois ça peut être d'une douceur qui frôle presque le chuchotement. Et c'est un instrument fou quoi. C'est avec trois pistons, maintenant quatre avec celle avec celle de mon père, on peut faire des trucs incroyables.
Donc il n'y a jamais eu de frustration de chanteur?
Non jamais.
La tradition est de plus en plus présente dans votre musique, c'est quelque chose que vous aviez senti venir ou c'est valable pour ces deux disques, vous verrez pour les prochains ou...
L'aspect traditionnel, arabe, vous voulez dire? En fait, je crois que c'est toujours là, ça a toujours été là. Souvent, après les concerts, où on parlait du public tout à l'heure, souvent après les concerts ou même en interview, des choses comme ça, les gens, les journalistes ou les personnes qui viennent me parler me disent c'est quoi votre inspiration? Parce que là, vous avez fait un hommage à Led Zeppelin, vous avez fait du hard rock, vous avez fait du hip hop avec Oxmo Puccino, etc. Machin. Et c'est quoi votre inspiration? Et moi, je dis très souvent, je disais que Oum Kalthoum était une de mes grandes références, une de mes grandes inspirations. Et du coup, ça fait toujours bizarre parce que les gens disent attends, tu viens de faire du hard rock en prétendant que c'est du jazz et tu nous dis que c'est Oum Kalthoum. Donc j'essaie d'expliquer que c'est pas du hard rock qui prétend être du jazz, c'est du jazz mais qui se mélange avec d'autres influences, avec d'autres idées, l'histoire du jazz évolue, donc faut pas s'arrêter aux barrières du langage. Et en plus de ça, bah oui, Oum Kalthoum est dans ça, et alors ça s'entend pas forcément, mais elle est là. Donc il fallait qu'à un moment donné j'arrive à faire cette traduction d'Oum Kalthoum en jazz pour que vraiment on arrive à comprendre en quoi est-ce qu'elle est reliée à mon travail quotidiennement et depuis très longtemps.
Ce soir vous ouvrez le festival, le Rhino Jazz Festival, la 37e édition. Vous allez jouer plutôt l'album Kalthoum ou Red and Black Light, les deux? Comment deux projets différents, mais qui ont le lien, l'hommage aux femmes ou à cette femme.
Ce soir, on joue vraiment l'album Kaltoum.
Ouais.
Et uniquement l'album Kaltoum. Pour des raisons techniques, tout simplement, c'est que c'est pas la même équipe musicale. Et puis parce que Red and Black Light, c'est un album qui s'écoute debout en dansant. Et c'est un album de jazz qui est fait pour danser, pour s'éclater, et pour danser, chanter, s'amuser. Mais ça reste du jazz. Voilà. Et Kaltoum, on peut s'amuser aussi, si on a envie de danser. Ne vous l'interdisez pas, en tout cas. Mais par contre, c'est vrai que c'est un album plus posé, voilà, encore une fois, plus dans la finesse du jeu, dans les petites variantes qui sont peut-être pas forcément faciles à entendre, etc. On joue pas très très fort, donc c'est un environnement qui est complètement différent et qui vaut mieux écouter assis d'ailleurs.
D'accord, mais pour ce soir c'est comme ça ou pour toute la tournée ce sera comme ça? Ce sera ce disque
En fait, on fait une énorme tournée qui va durer un peu moins d'un an et demi. Et certains concerts, c'est les concerts de Kaltoum. Et donc là, faut savoir qu'en venant, ben, vous allez être plutôt assis au calme. Et certains concerts, c'est des concerts de Red and Black Light, donc c'est avec l'autre équipe. Et là, faut savoir que vous allez être debout et qu'il va falloir danser et chanter avec nous. Et après, il se peut, dans certains festivals, si l'occasion se présente, mais ce sera très rare, je pense, il se peut qu'on fasse les deux.
D'accord. Mais on le sait à l'avance ou on découvre une...
Non, si en général, si vous allez sur mon site ou même la manière avec laquelle c'est présenté, il y a écrit vraiment si c'est Kaltoum ou Red and Black Light. D'ailleurs, c'est important que... C'est cool que vous me posiez la question parce que c'était une de mes inquiétudes. C'est que des gens viennent en se disant « Ah, on va aller écouter du jazz, ça va être calme, tu vas voir ma chérie, machin. » Et puis qu'ils arrivent et qu'ils se voient... qu'ils se trouvent avec 900 personnes debout en train de danser. Et qu'ils se disent « Ah mince, c'est pas du tout ça que je voulais. » Donc voilà, c'est bien qu'on précise aux gens pour qu'en effet, ils soient pas trop surpris.
Et il faut que les gens dansent. Vous avez des vraies préoccupations de DJ. Là. Il faut que ça danse pas, c'est que ça marche pas.
Non, c'est pas ça. Mais c'est que j'ai pas... En fait, pour tout vous dire, c'est vraiment ce truc des jazzmen quand je vais dans certains clubs. En France ça va encore, mais aux États-Unis par exemple, New York, et des intégristes, des ayatollahs de l'intégrisme, quoi. Et alors si d'un seul coup, c'est comme dans la musique classique, le fameux débat à la philharmonie, oulala, il y a un enfant qui a crié dans le silence, ça va, il y a quelqu'un qui a éternué au moment où il y avait un demi-soupir, c'est bon, quoi. Et il y a toujours des débats comme ça, qu'est-ce que j'arrête, qui arrête son concert parce qu'il y a quelqu'un qui a pris une photo, voilà, tous ces trucs là moi, c'est un truc qui m'exaspère. Et quand j'ai envie que les gens aiment la musique, alors je les prends comme ils sont. Je ne vais pas leur imposer une manière de faire. Et dans les clubs de jazz, certains clubs de jazz à New York, par exemple, faut surtout pas parler, surtout pas bouger. Alors là, si à un moment donné, vous applaudissez au mauvais moment, oulala, il y a le directeur du club qui peut vous sortir et tout. Moi, j'avais envie de dire, attendez, on se calme. Le jazz, enfin, je ne suis pas le seul d'ailleurs, on est très nombreux à faire ça dans le jazz aussi. Hein, mais c'est pas que ça, c'est ça aussi. C'est bien que ça existe, mais il n'y a pas que ça. Et le jazz dans son histoire, c'est aussi des gens qui dansaient dans les clubs, qui s'amusaient, qui faisaient plein d'autres choses que s'amuser d'ailleurs. Et c'était ça la vie du jazz à cette époque-là. Pourquoi d'un seul coup vouloir le sortir et en faire une musique classique qui va s'éteindre sous la poussière? J'ai envie que les gens s'amusent et viennent se faire plaisir en concert, tout en écoutant du jazz et en se disant « bah tiens, c'est ça le jazz ». Bah ouais, c'est ça. C'est aussi ça.
Ibrahim Maïlouf, vous allez monter sur scène dans quoi? Une demi-heure à peine? 20 minutes?
Pareil.
Et là, vous êtes comment? Vous vous sentez comment?
Bah, ça va.
C'est toujours une chance de rencontrer un artiste dans les loges avant de monter sur scène. Ou vous avez besoin de concentration, d'être un petit peu tout seul, un peu seul?
Non, moi j'ai besoin d'être concentré, mais ma manière de me concentrer, c'est pas en étant tout seul.
Ouais.
C'est en étant entouré de gens, bienveillants, de papoter avec les musiciens, d'échanger. Si je m'isole, je commence à avoir peur. Donc, faut pas.
D'accord, très bien. En tout cas, on était vraiment très heureux de vous rencontrer. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bon concert, bonne tournée, et puis longue vie. Donc, aux deux albums, Red and Black Light et Kaltoum, qui sont sortis il y a quelques jours. Là, c'est tout frais.
Exactement.
Merci beaucoup, Ibrahim.
Merci à vous.
Au revoir.
Bonne soirée.